Sometime I'm right, sometime I'm wrong, baby.
Radio de la Paix, il est 18h. Le journal de 18h. Linda Christelle Ballier.
Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à l'écoute de Radio de la Paix. En titre de ce 18h, ce 8 mars 2024, c'est la Journée internationale des droits de la femme qui vise cette année en Côte d'Ivoire à réfléchir sur la lutte contre la pauvreté et l'autonomisation de la femme. On en parle à l'entame ce journal avec Mata Touré. Et en fin d'édition, Christelle Yesso, dans un dossier d'actualité, nous fera l'état des lieux de cette lutte en terre ivoirienne. Et puis la Radio de la Paix est en deuil. Son directeur, précurseur, journaliste béninois est décédé hier jeudi 7 mars. Un hommage est rendu à Sylvain Sémilinko dans cette édition avec Francis Cassie. Et puis dans l'actualité, hors de nos frontières, l'Union africaine, l'Union européenne et les États-Unis ont salué l'organisation de l'élection présidentielle au Sénégal pour le 24 mars prochain. À l'instar de la plupart des pays du monde, la Côte d'Ivoire commémore ce 8 mars 2024 la Journée internationale des droits de la femme, avec pour objectif de faire l'état des lieux, même si de façon générale des progrès sont enregistrés en ce qui concerne l'égalité hommes-femmes. Le contexte actuel du monde nous interpelle, selon Nasséneba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, nous dit Mata Touré dans cet élément.
Tout en recontextualisant cette journée pour laquelle les Nations Unies ont retenu comme thème investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, la ministre ivoirienne de la Femme et de l'Enfant précise que pour cette année, notre pays a adopté le thème national suivant, agir ensemble pour l'égalité, éradiquer pauvreté, renforcer les institutions, investir dans le futur de la femme. Parce qu'il s'agit, pour la Côte d'Ivoire, de réfléchir sur la lutte contre la pauvreté, le renforcement des institutions aussi, et enfin sur l'autonomisation des femmes. Et selon Nasséneba Touré, cette ambition exige une plus grande présence des femmes dans les sphères de décision et de ce côté-là, les contours sont plutôt délimités avec la prise du décret favorisant la représentation des femmes dans les assemblées élues. Les réformes dans les institutions de formation, d'éducation féminine figurent également parmi les points positifs en Côte d'Ivoire. Nasséneba Touré de rappeler l'égalité entre les hommes et les femmes et qui ne sera atteinte que si la culture effective de protection des femmes est en dans les consciences nationales. Et à cet égard, en plus de la loi relative aux mesures de protection sur les victimes de violences domestiques, de viols ou de violences sexuelles, entre autres, une campagne de mobilisation citoyenne contre les VBG, dénommée Carton Rouge, est en cours en Côte d'Ivoire, qui au passage, rappelle-t-on, assure la vice-présidence du bureau exécutif du conseil d'administration de ONU Femmes depuis le 10 janvier de cette année. Avant de souhaiter à toutes les femmes et à tous les hommes qui soutiennent la cause des femmes, une bonne célébration de la Journée internationale de la femme, édition 2024.
Merci à vous, Mata Touré et Human Caucus for Lobbying Côte d'Ivoire, dont la mission est d'œuvrer à l'amélioration de la représentativité des femmes dans les instances de décision et les assemblées élues, saisit l'occasion de ce 8 mars pour appeler les femmes de Côte d'Ivoire à plus d'engagement et plus d'action pour faire bouger les choses. Agnès Monique, on écoute.
Cette journée internationale des droits des femmes, c'est de faire le bilan. Qu'est-ce que nous avons gagné aujourd'hui, par exemple, en Côte d'Ivoire? Les femmes, elles sont revenues là-dessus pendant longtemps. Et aujourd'hui, l'exemple le plus récent aussi, c'est enfin l'adoption du quota de 30% de présence des femmes sur les listes des conseils municipaux et des conseils régionaux. Et quand on a acquis ça, on dit, bon, mais quel est le pas suivant? C'est que nous nous organisions pour aller vers la parité. Voilà des exemples pratiques. Mm-hmm. Au lieu que ce soit pour bonne fête de la femme, etc. Et puis finalement, on oublie cet aspect-là qui s'inscrit aujourd'hui dans l'évolution même de notre société, puisque tout le monde aspire, les gouvernants, la société civile, tout le monde aspire à une société beaucoup plus équilibrée où la femme doit aussi participer pleinement à la gouvernance. Donc c'est de cela que nous pensons que c'est cela le défi, et c'est autour de ces questions-là que nous devons réfléchir, faire le bilan. Oui, on peut se réjouir du parcours qui a été effectué, mais ne nous arrêtons pas à cela. Sinon, on va arrêter la progression.
Agnès Mounet de Women Caucus for Lobbying Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation à travers la direction des cantines scolaires a organisé à Daloa la 9e édition de la journée africaine de l'alimentation scolaire. Le thème de cette journée, investir dans l'alimentation scolaire locale pour transformer les systèmes éducatifs pour un avenir inclusif et prospère du continent africain. Une occasion que les organisateurs de cette rencontre ont saisi pour solliciter l'appui et le soutien des élus et cadres du Haut-Sassandra. Compte rendu, Jean-Noël Kwame.
Le directeur des cantines scolaires, Jérôme Ayekwe, a plaidé pour une mobilisation communautaire autour du programme national d'alimentation scolaire en Côte d'Ivoire.
Les repas scolaires offrent un rapport coût-bénéfice positif sur l'éducation, la santé ainsi que sur l'économie. Pour l'année scolaire 2023-2024, ce sont 7602 écoles primaires publiques qui sont dotées de cantines scolaires sur 16038 écoles primaires publiques. Nous comptons encore et toujours sur la contribution de tous pour un programme d'alimentation scolaire plus performant.
Le directeur de cabinet au ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Raoul Kouadio, a souligné les efforts du gouvernement ivoirien pour l'amélioration du programme national d'alimentation scolaire.
La Côte d'Ivoire a adhéré à la coalition mondiale pour les repas scolaires. Au niveau national, il y a eu l'élaboration de la nouvelle stratégie nationale. L'objectif est non seulement d'améliorer l'accès à l'école, d'y maintenir tous les élèves, mais aussi de développer l'économie locale en stimulant la production agricole et l'entrepreneuriat dans les collectivités. La dynamisation de notre programme d'alimentation scolaire apparaît comme une condition sine qua non si nous voulons avoir un capital humain de qualité capable de booster le développement de notre pays.
Le directeur de cabinet a saisi cette occasion pour inviter les élus et cadres du Haut-Sassandra à tout mettre en œuvre pour offrir au moins un repas chaque jour à tous les écoliers de la région dans un souci d'amélioration des résultats scolaires. Jean-Noël Kwame, Daloa, Radio de la Paix.
Le président de la République Alassane Ouattara s'est entretenu hier jeudi avec le président directeur général du groupe Eni, Claudio Descalzi, qui a annoncé la découverte d'un nouveau gisement de gaz naturel et de pétrole très léger dans le bassin sédimentaire offshore de la Côte d'Ivoire. Ce nouveau projet va nécessiter un investissement d'environ 3600 milliards de francs CFA, suivant le compte-rendu de cette rencontre avec Jean-Claude Mabéa.
Le président Alassane Ouattara s'est réjoui des échanges qu'il a eus avec son hôte du jour.
Eni a découvert il y a 3 ans le gisement baleine qui nous permettra de monter en puissance dans la production de gaz. Également, nous aurons le plaisir honoré de recevoir le président d'Italie début avril pour une visite d'État. C'est montrer les liens forts qui existent entre la Côte d'Ivoire et l'Italie. J'ai eu l'occasion de rendre visite à sa sainteté le pape également l'année dernière, et aujourd'hui le président Descalzi est venu nous annoncer une deuxième bonne nouvelle.
Le président directeur général d'Eni a annoncé une grande découverte de gaz naturel et de pétrole très léger dans le bassin sédimentaire offshore de la Côte d'Ivoire. Claudio Descalzi.
Aujourd'hui, on a annoncé une nouvelle découverte du gaz avec du condensé, donc de l'huile très léger associée. On parle d'une découverte d'entre 1 milliard et 1 milliard et demi de barils équivalents, donc c'est du gaz et du pétrole très léger, de l'huile très léger. C'est une grande découverte. On vient de l'analyser, donc on va travailler rapidement avec le ministère pour essayer d'arriver très rapidement aussi pour cette nouvelle découverte.
Il a également révélé que des investissements dans le domaine social, notamment la formation, l'éducation, la santé, la conservation de la forêt et l'agriculture, sont prévus dans le cadre de cette coopération.
sensibiliser sur les atrocités de masse, notamment à l'approche des élections présidentielles de 2025 en Côte d'Ivoire. C'est l'un des objectifs visés par la Coordination africaine des droits de l'homme pour les armées CADA. 25 journalistes ont donc vu leur capacité renforcée par l'organisation le 5 mars dernier au cours d'un atelier à Abidjan, une initiative en marge du premier forum régional du groupe de travail Afrique de Action mondiale contre les atrocités de masse tenue en Côte d'Ivoire en 2023. Sonia Nzian pour plus de détails.
Coordonnateur général de la CADA, Thiaby Bakary, donne une idée sur la notion d'atrocité de masse.
C'est tous les crimes, crimes de génocide contre l'humanité, de guerre, les crimes d'occupation. Quels sont les mécanismes de prévention pour éviter que ces crimes n'adviennent dans nos États?
S'intéresser à la prévention des atrocités de masse n'est pas sans raison, selon Thiaby Bakary, le coordonnateur général de la CADA.
Ces mécanismes ont été mis en place, vous verrez, en Afrique, après le génocide du Rwanda. Vous ne pouvez pas, après une guerre qui a fait pratiquement 1 million de morts, souhaiter que votre pays connaisse ce genre de drame.
Et pour contribuer à la prévention des atrocités de masse, Thiaby Bakary estime que les médias ont un rôle important à jouer.
On ne souhaite pas qu'il y ait des radios mille collines en Côte d'Ivoire. Donc les médias doivent être professionnels, que les journalistes d'abord puissent s'approprier de toutes ces notions de prévention des atrocités, mais nous aider à relayer l'information auprès des autorités pour que la Côte d'Ivoire se dote d'un mécanisme national, à l'instar du Ghana, qui est le seul pays en Afrique de l'Ouest à avoir un tel mécanisme.
Retrouvons justement quelques participants sur la formation reçue.
Rita Pascal Kouaminan, cette formation est venue pour nous emmener à créer du contenu qui va impacter positivement la communauté.
Camaratier Abou Soupiane, en tant que journaliste, il était important de prendre connaissance de ces termes-là et surtout faire attention dans nos écrits, nos papiers pour participer à la cohésion sociale.
Présente dans 20 pays africains, la Coordination africaine des droits de l'homme pour les armées, CADA, a été créée le 16 novembre 2011 en Côte d'Ivoire à la faveur de la crise post-électorale.
Page noire dans ce journal, et c'est la presse internationale qui vient d'être endeuillée. Le journaliste béninois Sylvain Félix Tsemilinko, très connu en Côte d'Ivoire, est décédé dans la matinée d'hier, jeudi 7 mars 2024 au Bénin. L'hommage à sa mémoire est signé Francis Cassi.
Journaliste d'un professionnalisme achevé, Sylvain Félix Tsemilinko s'est éteint dans la matinée de ce jeudi 7 mars à Abomey-Calavi au Bénin. Il fut rédacteur en chef du BBC Afrique, British Broadcasting Corporation, la radio britannique, de 1996 à 1998, puis son directeur de 1998 à 2004. De 2004 à 2006, directeur de la rediffusion et de l'expansion Afrique francophone du BBC World Service à Londres, au Royaume-Uni. Il a également dirigé la radio de la mission de l'ONU en Côte d'Ivoire, ONU-CFM, de 2006 à 2017. Et a entamé le démarrage de Radio de la Paix, la continuation de la radio onusienne jusqu'en décembre 2017 de cette année. Ce grand nom de la presse africaine et internationale d'origine béninoise a par ailleurs signé beaucoup d'enquêtes, de grands reportages et de tribunes pour le compte des médias de grande réputation internationale à l'image du journal français Le Monde. Il a longtemps travaillé comme consultant pour des organismes internationaux. Né le 20 février 1961, Sylvain Tsemilinko a rangé à jamais le micro depuis le jeudi 7 mars. Adieu maître.
Merci à vous Francis Cassi pour ce retour sur la carrière de cet illustre journaliste. Et dans la même veine, le chef de service des programmes et de la production de Radio de la Paix, Brou-Conan Bertin, témoigne du professionnalisme de l'homme, lui qui a été l'un de ses proches collaborateurs.
Il y a à peu près un an, on s'est parlé au téléphone et il a demandé des nouvelles de la radio, Radio de la Paix, et nous a apporté ses encouragements pour que nous puissions continuer l'œuvre, parce que Radio de la Paix, dans sa configuration actuelle, fait partie des chantiers élaborés par Sylvain Tsemilinko. Il est resté directeur, donc c'est un grand professionnel qui s'en va. Ça, sans hypocrisie, hein, parce que on a l'impression que c'est quand les gens meurent qu'on leur trouve des qualités, mais pour ce qui est du professionnalisme, c'est un professionnel achevé. Pas un passionné de la profession, imaginez. Vous, dès qu'il est arrivé, après une conférence de rédaction, on avait un sujet et le tout directeur qu'il est, il est rentré dans son bureau, il a pris son papier, il est allé enregistrer qu'on a diffusé. C'est dire qu'il avait vraiment cela dans le sang. Et fort, n'est-ce pas, de cette collaboration qui a amené les autorités ivoiriennes à souhaiter la continuation du signal d'ONU-CFM à travers Radio de la Paix. Et bon, au plan administratif, c'est lui qui a fait toutes les démarches. Nous avons continué. C'est vraiment une grosse perte pour la profession.
Brooke Nambertin, chef de service des programmes et de la production de Radio de la Paix. Dans l'actualité, hors de nos frontières, l'Union africaine, l'Union européenne et les États-Unis ont salué l'organisation de l'élection présidentielle au Sénégal prévue le 24 mars prochain, après plusieurs semaines d'une crise politique provoquée par le report de dernière minute de ce scrutin. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, se réjouit du dénouement pacifique de la crise institutionnelle au Sénégal, a-t-il dit dans un communiqué publié ce vendredi. L'organisation africaine déploiera une mission d'observation à la hauteur des enjeux. Et puis, signalons que la campagne débutera samedi à 23h59 pour s'achever le vendredi 22 mars et elle sera plus courte que les 21 jours prescrits par le Code électoral sénégalais. De retour en Côte d'Ivoire pour parler de la Journée internationale des droits de la femme célébrée chaque 8 mars. Et en Côte d'Ivoire, le thème retenu pour cette année est « Agir ensemble pour l'égalité, éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions, investir dans le futur de la femme ». Des progrès significatifs dans la promotion des droits des femmes ont été enregistrés. Retour donc sur 4 décennies de lutte en Côte d'Ivoire dans ce dossier d'actualité signé Christelle Yesso.
La Journée internationale des droits de la femme se commémore depuis 1977, 47 ans après, où en est la lutte pour les droits de la femme en Côte d'Ivoire. Pour beaucoup d'Ivoiriens, la Journée internationale des droits de la femme se confond à une journée de célébration de la femme. Julie Conné, présidente du Centre féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire.
Nous avons toujours dit que le 8 mars, ce n'est pas une journée festive, c'est une journée de commémoration, c'est une journée de réflexion.
Face à ce constat général, les associations et ONG féminines se sont lancées dans des campagnes de sensibilisation qui ont permis de grandes avancées au niveau de la lutte. Nesmond Delorpi, présidente de l'ONG Opinion Éclairée et initiatrice de la campagne « Médiatisons les voix féministes ».
La Côte d'Ivoire a fait beaucoup d'efforts en matière d'avancée des droits des femmes au niveau des textes de loi et tout cela. Seulement qu'au niveau de la compréhension des lois par ceux qui sont censés les mettre en œuvre lorsqu'ils sont saisis par les femmes, c'est en ce moment que parfois il y a des difficultés.
Au plan politique, l'application des textes de loi demeure un défi majeur, notamment la loi sur la représentativité des femmes dans les assemblées élues.
Daougabala Mariam, présidente de la commission du genre et des affaires juridiques du caucus des femmes sénateurs. Malgré cette loi sur la représentativité des femmes élues, nous n'avons pas beaucoup avancé. Et la question se pose aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire pour accélérer la représentativité des femmes dans les sphères élues ?
Au plan familial, on note aussi la venue de nouvelles lois impactant positivement la femme.
La loi sur le mariage a eu des impacts positifs sur la femme qui travaille en termes d'allocation familiale. Même la femme célibataire qui est mère aussi, aujourd'hui, peut se prévaloir de l'autorité parentale. Ce n'est plus la puissance paternelle qui est mise en avant.
Les avancées dans les droits de la femme, on les enregistre aussi au plan éducatif, avec un taux croissant de scolarisation de la jeune fille.
Les personnes ont compris, que ce soit les femmes, les hommes, dans les villages, dans les villes, ont compris que autant que le petit garçon, la petite fille doit aller à l'école. Donc déjà, ce problème est à moitié résolu. Ce 8 mars doit être une journée de réflexion pour chaque femme, pour que chaque femme se dise qu'est-ce que je peux apporter à mon pays pour que les choses soient meilleures pour moi et pour les autres femmes.
La lutte pour les droits des femmes progresse, mais de nombreux défis persistent.
C'est la fin de ce 18h dont voici le rappel des titres. Ce 8 mars, c'est la Journée internationale des droits de la femme qui vise cette année en Côte d'Ivoire à faire l'état des lieux, réfléchir sur la lutte contre la pauvreté et l'autonomisation de la femme, selon Nassiné Batouré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, nous a appris à l'entame de ce journal Mata Touré. Et puis la Radio de la Paix est en deuil. Son directeur précurseur, journaliste béninois, est décédé hier jeudi 7 mars. Un hommage a été rendu à Sylvain Sémilinko dans cette édition avec Francis Cassis et le chef de service des programmes et de la production Brooke Nambertin qui a témoigné du professionnalisme de feu Sylvain Sémilinko. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite votre magazine humanitaire présenté par Sonia Nzian.
humanitaire.